Place Vipromière par le Père Marie-Dominique Philippe, le 11 juin 2002 à Saint-Judas.
Il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur la sagesse contemplative, la sagesse métaphysique, le sommet de la philosophie, cette contemplation naturelle de Dieu. Cette contemplation et cette vie consacrée à Dieu qui est la sagesse acquise et qui est la personnalité du sage, du philosophe, pas de celui qui enseigne la philosophie, mais du philosophe. Vous voyez ce que je veux dire ? Celui qui enseigne la philosophie devrait être sage pour enseigner vraiment la philosophie. Autrement, très vite, il se rabat sur l'histoire. C'est ce que font ordinairement beaucoup de professeurs de philosophie. On enseigne la philosophie en enseignant les philosophes. C'est encore de l'histoire. Or, il n'y a pas de sagesse en histoire, puisque l'histoire étudie le devenir, même un devenir très intelligent, qui est étudier le devenir des philosophes. Mais étudier le devenir des philosophes n'est pas la sagesse. Ça devrait nous y conduire pour les comprendre. Parce que si vous n'êtes pas philosophe, vous ramenez le philosophe que vous étudiez à votre dimension. Alors que si vous tendez vers la recherche de la vérité, vous essayez de comprendre jusqu'où pénètre cette philosophie et pourquoi elle ne va pas jusqu'au bout. Alors là, c'est très important d'étudier l'histoire de la philosophie par les sommets. Et vous verriez pourquoi beaucoup, la plupart, selon le vote, le suffrage universel, la plupart des philosophes n'atteignent pas la sagesse. C'est pourquoi si facilement on dit elle est impossible. Ut in pluribus, c'est vrai, elle est très rare. Elle est très rare parce que elle exige une maîtrise de soi au point de vue passionnel, au point de vue volontaire, pour ne pas laisser passer la passion avant. Or, la plupart des gens laissent passer leur passion avant le développement de leur intelligence. Donc, c'est atteindre la sagesse comme personne propre du philosophe est très rare. Qu'est-ce qui vient après ? Il n'y a pas de sagesse au niveau politique. Il faut bien voir que la politique implique la prudence personnelle qui s'étend au bien commun. Le bien commun est une fin immanente et pas transcendante. Aristote termine son étude de la métaphysique et d'éthique en nous rappelant tout le temps ça. Il ne faut pas confondre la fin qui est toujours transcendante, guide, me dépasse. Et puis la fin immanente. La fin immanente me donne pas de sagesse. L'étude du bien commun reste un bien humain et qui ne dépasse pas l'homme. Il n'y a pas de sagesse au niveau prudence. Même quand on dit que la prudence est la petite sagesse pratique, il faut faire attention. Qu'elle soit pratique, c'est sûr. Qu'elle soit sagesse, ah ça c'est différent. La sagesse ne peut exister que dans la mesure où on atteint la fin. Parce que l'homme n'est parfait qu'en atteignant sa fin, sa propre fin. Or, au point de vue politique, on atteint le bien immanent de l'État, et le bien immanent de l'État, c'est le bien commun de l'État. Or, ce bien commun de l'État, de la communauté politique, ne finalise pas l'homme. Même si des quantités de personnes se finalisent par la politique, c'est vrai ça. Et c'est une fausse finalité. Il n'y a pas de finalité au niveau politique, de finalité profonde, personnelle, à ce niveau-là. Donc, ça peut donner une très grande taille humaine. Un homme vraiment, un homme consacré au bien commun de son pays, c'est très digne, c'est très grand. Parmi les valeurs humaines, c'est la première valeur humaine. Se consacrer au bien commun de son pays. Mais cette première valeur humaine n'est pas une valeur transcendante qui permet à l'homme d'atteindre sa véritable fin. Il atteint le bien commun. Il se donne à ce bien commun. Un homme politique peut avoir de très grandes qualités. Un grand homme politique peut avoir de très grandes qualités de regard prudentiel vis-à-vis de son pays, d'organisation, mais il n'atteint pas la sagesse. Il demeure dans l'immanence du bien commun. Alors, ça peut être très grand et très dangereux. Parce que il peut, en raison même de sa grandeur, donner le change. Ça se voit, ça. La grandeur d'un homme politique, ça se voit. Ça attire. Et on peut et on doit le respecter, c'est évident, parce qu'il cherche le bien commun de tous. Mais il ne dépasse pas la prudence politique. C'est très rare, les hommes politiques qui arrivent à la sagesse. C'est très rare. Et l'homme politique, il faut avoir le courage de le dire, un homme politique ne finalise pas l'homme. Être au service de tous les hommes peuvent sanctifier quelqu'un. Alors, je regarde le point de vue de la charité. Ça peut le sanctifier. Un homme politique peut devenir un saint comme homme politique, mais il n'atteint pas la sagesse. faut dépasser le bien commun en comprenant que le bien commun est ordonné à un bien séparé qui n'est plus le bien de l'État, qui est le bien personnel de l'homme comme homme, la recherche de Dieu. L'homme politique au point de vue de la charité fraternelle, sûrement peut-être très grand, et peut faire comprendre la valeur très grande de la miséricorde, de la justice. C'est sûrement quelqu'un qui peut faire énormément pour son pays et pour tous les hommes, mais il n'atteint pas la sagesse. Et c'est vrai de la prudence d'un père de famille et d'une mère de famille. Donc vous voyez, il y a là quelque chose de très grand, de très beau. Un père de famille, une mère de famille, c'est très grand, c'est très beau. Au point de vue générosité, donc au point de vue chrétien, ce sont des personnes qui développeront en elles la générosité, le don d'elles-mêmes, et se sanctifieront profondément. Atteindront peut-être un degré très éminent de sainteté. Mais la sainteté n'est pas la sagesse. C'est une chose différente. Je dirais, la sainteté permet à tous les hommes d'être saints. Il n'y a pas de barrière. Tandis que la sagesse n'est pas donnée à tous les hommes. Elle est donnée en possibilité, en germe, mais elle présuppose tant de causes extérieures. Mais le problème de la sainteté et de la sagesse est très important à bien distinguer les deux. Le livre du Père Festugier est là-dessus très intéressant, montrant que c'est. On dirait que la sagesse, c'est une. Entendez bien ce que je veux dire, hein. C'est une démocratisation de la sagesse. La sainteté, ça permet à une mère de famille qui ne peut pas consacrer beaucoup de temps à l'étude, c'est bien évident, à être sainte. Ça permet à Saint Joseph, qui au point de vue métaphysique n'est pas le saint protecteur de la métaphysique, mais du travail, à être saint. Et pour nous, en tant que chrétiens, et c'est très très important de comprendre la différence des deux. Et il ne faut pas que la sainteté supprime la sagesse. Ce qui arrive très souvent. J'ai des souvenirs d'enfants qui sont admirables là-dessus. Je me souviens, le père d'eau qui tendait vers la sagesse avait une sœur qui était fille de la charité. Alors, dès qu'elle arrivait, le bon père d'eau fuyait très vite pour avoir du calme, parce que elle remuait tout l'univers. Fille de la charité, avec cet épisode remarquable pendant la guerre de 14, elle était fille de la charité et elle avait ses petits orphelins avec elle, et elle avait été prise. Je sais pas, peut-être l'imprudence d'être partie trop vite au champ de bataille. Alors, elle a dit, qu'est-ce qu'on va faire, ces pauvres gosses. Elle a ouvert ces énormes parapluies du temps passé qu'avaient ses braves sœurs. Et elle a dit aux enfants, mettez-vous en dessous. Là, vous ne recevrez aucune balle. Et les enfants se sont mis à dormir en dessous du parapluie. Et elle priait pendant ça, là, suppliant le Seigneur que le champ de bataille s'arrête. Et c'est authentique, c'est vrai. C'était tout à fait sa foi, telle que Dieu peut faire un miracle, il faut garder ses petits. Et le parapluie servira de garantie. Vous voyez très bien la sainteté et la sagesse. Et on a tous des exemples de ça. Et c'est très important de faire la distinction. Et on comprend la sainteté, mais la sainteté peut être quelquefois très agaçante pour le sage, vous voyez. Ça existe, ça. Le type de la sœur de charité, il y en avait des saintes qui étaient... Quand elles avaient des cornettes, on a l'impression que quand elles n'ont plus de cornettes, la sagesse, la sainteté a diminué. Ces cornettes leur donnaient une allure très spéciale. Et c'est important. La graisse nous apporte la sagesse. L'écriture nous donne la sainteté. Et la sagesse aussi. Hein. Parce que la sainteté chrétienne va avec la sagesse. Mais elle permet à des personnes qui n'atteignent pas la sagesse, qui n'ont pas été du tout élevés dans ce sens-là, d'être extrêmement donné, vous voyez, la générosité de la charité et la sainteté de la miséricorde, qui n'est pas sagesse. Ça, on a des quantités d'exemples qui nous montrent ça, la différence entre les deux. Donc, faisons bien la distinction entre les deux. La charité permet d'atteindre notre finalité directement. Et donc, d'atteindre un type de personne, parce que tous les saints sont des types merveilleux de personnes, mais pas de personnes philosophiques. C'est un débordement, en quelque sorte. Par la charité, on peut atteindre un degré de personnalité très remarquable, mais dont le point de vue de la sagesse philosophique est très bon. Il y a donc, après la prudence, nous avons la finalité de l'amitié. Alors, c'est peut-être là où nous comprenons ce type de personne très particulière qui est dans l'amitié. Puisque l'amitié finalise. Elle finalise notre vie. Elle ne la finalise pas d'une façon totale, mais d'une façon partielle. Alors, il y a un type de personne d'achèvement de notre nature humaine très particulier qu'est la philia, l'amitié. Alors, voyons bien, et c'est là le point de vue très particulier, voyons bien que l'amitié est une fin qui n'est pas la fin dernière. C'est une fin, c'est pour ça que c'est très difficile de dire une fin secondaire. C'est une fin, je crois qu'il faut dire, humaine. Parce que la contemplation de Dieu est une fin surhumaine. Elle est humaine en ce sens que le philosophe reste homme pour contempler Dieu, mais elle est surhumaine en ce sens que cette finalité dépasse la nature. Tandis que l'amitié développe parfaitement la nature et permet à la nature d'atteindre une certaine finalité, donc vraiment nous donne un type particulier d'une personne. C'est même dans l'amitié où le point de vue personne et nature vont être parfaitement d'accord, en harmonie. C'est peut-être ça qui caractérise le mieux la personne. Dans la contemplation métaphysique, dans la contemplation philosophique, il y a quelque chose de surhumain. Et c'est pour ça que c'est si rare. C'est surhumain. Ça se voit de temps en temps. Plotin. Dans la personne de l'ami, on a un type de personne et de personnalité vraiment humaine. C'est la nature humaine qui, dans la personne humaine, se trouve parfaitement développée. Et c'est pour ça que l'amitié est un tremplin merveilleux pour le dépassement. Et l'amitié ne peut être vraiment amitié que dans la mesure où elle accepte le dépassement. Si elle n'accepte plus ce déplacement et qu'elle se ferme sur elle-même, elle n'est plus ce qu'elle doit être. Et n'étant plus ce qu'elle doit être, elle ne peut pas finaliser pleinement l'homme. Et c'est pour ça que c'est si délicat de regarder cette personne spéciale qui est l'amitié, amicabilis. Il y a des gens qui sont amicabilis et d'autres personnes qui le sont très peu. Amicabilis, c'est l'ami qui conduit son ami à dépasser l'amitié. Il ne s'arrête pas à l'amitié. Il sait que c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de gratuit, mais il faut la dépasser. Il faut qu'elle puisse toujours garder cette ouverture vers la contemplation. Pourquoi ? Parce que le propre de l'ami, c'est d'aimer dans son ami ce qu'il y a de meilleur dans son ami. Si je n'aime pas ce qu'il y a de meilleur dans mon ami, et que que je veux que tout soit finalisé par ça, je diminue mon ami, j'arrête mon ami. Et c'est ce qui arrive, hélas, très souvent, que l'amitié retarde notre course vers la contemplation. Alors qu'elle devrait, si elle était une véritable amitié, augmenter l'intensité de ferveur vers l'amitié, vers le dépassement, vers la contemplation. Le propre de l'amitié, c'est toujours, hein, il suffit de comprendre cette parole et de voir ce que ça signifie. Dans l'amitié, les amis s'aiment mutuellement l'un l'autre et aiment ce qui, dans son ami, est le plus parfait, le plus grand. Si j'aime mon ami parce qu'il a de beaux yeux, mon amitié deviendra passionnelle. Si j'aime mon ami parce qu'il a une âme contemplative qui tend vers la contemplation et que je sens qu'auprès de lui, je me purifie moi-même quant à ce désir de contemplation. Et si l'ami m'aime parce qu'il voit en moi la possibilité de la contemplation, alors cette amitié grandit et peut grandir. Elle n'arrête pas. On va ensemble vers la solitude. Et une véritable amitié, au point de départ peut-être, exige beaucoup de similitudes. Elle augmente notre soif de solitude. Ça, c'est le signe de la véritable amitié. Elle augmente notre besoin de solitude et de contemplation. On s'aime pour ce qu'on a de meilleur, et donc ce besoin de solitude et de contemplation. Tandis qu'une amitié qui s'arrêterait, qui serait une douce manière d'atteindre sa fin, et on resterait uniquement ensemble en disant comme on est bien ensemble, comme on est heureux, comme tous les autres sont des imbéciles, et nous sommes les seuls gens intelligents, et nous aimerions nous-mêmes. On se finaliserait l'un l'autre, et en se finalisant, on empêche l'autre d'atteindre sa fin, sa vraie fin, Dieu. Et donc, l'amitié serait un obstacle à la vraie contemplation. Et si l'amitié devient un obstacle à la vraie contemplation, elle devient un obstacle à découvrir ce pourquoi nous sommes faits. Et empêchant de découvrir ce pourquoi nous sommes faits, on diminuerait notre capacité d'être une véritable personne. On empêcherait la solitude contemplative de s'épanouir. Tandis que si on est les deux, conscients, cette exigence de la contemplation, on céderait à être plus contemplatif, d'aller davantage vers cette solitude, vers ce silence, vers cette exigence de la contemplation. C'est très très important cela. Ça demande une très grande lucidité. La passion, l'élément passionnel qui existe toujours. Nous sommes amicabilis en raison de la passion qui est en nous, qui est capable de surgir en nous. Si nous n'étions pas passionnés, on n'éveillerait pas cette amitié. Très souvent, c'est cette passion qui élève qui permet d'éveiller l'amitié. Mais cet élément passionnel qui est bon, la passion en elle-même n'est pas mauvaise. Elle est mauvaise quand elle arrête le dépassement. On ne peut pas demeurer dans sa passion. La passion nous donne le sentiment que nous aimons et ça réchauffe. Mais ça ne finalise pas. La passion ne peut pas finaliser. Alors, c'est évident que la véritable amitié demande de dépasser l'amitié. L'amitié demeure beaucoup plus limpide. Elle aura dépassé le point de vue de la concupiscence, de la passion. La passion, c'est l'élément de concupiscence dans l'amitié, c'est-à-dire d'attirer l'autre et de le posséder. Et donc d'arriver à la fusion. Dans l'amitié, on voudrait être toujours plus unis. Alors quand ce désir d'être toujours plus unis arrive à n'être plus que ce désir d'être unis, il arrête tout autre mouvement, tout autre dépassement. Alors on arrive à la fusion. On cherche à être de plus en plus un, de plus en plus uni. Et on ne regarde plus ce dépassement vis-à-vis d'un bien supérieur. L'ami devient pour nous le seul bien supérieur. Et on ne voit pas que de cette manière, on empêche son ami d'être vraiment contemplatif, de dépasser lui-même l'amitié par la contemplation. Il faut qu'il y ait cet élément contemplatif de dépassement. C'est pour ça que c'est une conquête permanente, l'amitié. On ne peut jamais considérer que l'amitié, ça nous arrête. Parce que si on conçoit bien ce que c'est que l'amitié, on voit que l'ami doit nous aider à nous dépasser, doit nous aider à être fidèles dans ce dépassement, doit nous aider à aimer vraiment celui que nous pouvons aimer totalement, qui est Dieu. Donc vous voyez que la personnalité de l'ami est très particulière. Elle est vraiment un repos. L'ami repose son ami et permet à son ami d'atteindre vraiment une vraie finalité, un vrai bien, un vrai repos, mais en même temps, il doit être un élément, et c'est essentiel, c'est pas accidentel, c'est essentiel à l'amitié, un élément qui le projette au-delà de lui, vers un bien supérieur, vers le bien qu'il pourra contempler. Vous voyez ? Et ne disons pas que par ce dépassement, l'amitié va être supprimée. Non. Quand l'amour est passionnel, il est jaloux. Toujours. C'est le signe de l'amour passionnel d'être jaloux. C'est-à-dire qu'on veut être le seul. Quand l'amour d'amitié est vraiment un amour d'amitié, alors on ne s'occupe pas des autres, on ne s'en occupe plus. C'est l'amour qui nourrit l'amour, c'est l'amour qui détermine l'amour. Et cet amour demande ce dépassement. Mais ce dépassement se fait à partir de cet amour. Et donc, l'amour de l'ami est toujours présent, mais il est dépassé. Il ne nous arrête pas. Il permet à l'ami, lui aussi, d'être dépassé. D'être ce qui nous permettra d'aller plus loin. Mais l'ami reste l'ami et demeure comme ami. Et c'est pour cela que l'amour d'amitié a quelque chose d'éternel. Il dépasse le temps. Parce que quand on aime l'ami, on touche en lui le secret profond de son âme. On touche en lui sa capacité de dépassement et d'être orienté vers Dieu. Et l'ami doit permettre de découvrir l'absolu, la fin, ma fin totale, c'est-à-dire le bien absolu Dieu, d'une manière plus parfaite. C'est pour ça que je crois que même l'amour d'amitié doit être le moyen le plus efficace et le plus juste pour prouver l'existence de Dieu. Je crois qu'une véritable amitié fait que forcément l'ami est là pour aider son ami à aller le plus loin possible. Et donc, s'il n'a pas encore découvert l'existence de Dieu, l'amitié doit être le moyen le plus efficace à découvrir l'existence de Dieu. C'est le lieu par excellence où l'ami doit être pour lui la possibilité d'un dévoilement de l'existence de Dieu. C'est pas étonnant, puisque l'amitié doit développer en nous ce qu'il y a de plus parfait dans notre âme, doit développer en nous la soif de vérité. Entre amis, on doit développer très intensément cette soif de vérité. Et cette soif de vérité me conduit directement à l'absolu, à la découverte de Dieu. Je ne peux pas ne pas à l'ami poser, je ne peux pas ne pas poser cette question. Y a-t-il un ami plus parfait que toi, qui n'est pas un rival, mais qui est au contraire celui qui te permet d'être ami, qui te permet d'être ma fin, fin partielle, mais fin quand même, qui te permet de susciter mon amour? On se pose nécessairement cette question dans l'amour d'amitié, puisque l'amour d'amitié n'éteint pas l'intelligence, au contraire. La véritable amitié éveille l'intelligence et lui permet de se développer dans ce qu'elle a de plus profond. Puisque l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, j'allais dire, a une timidité. Et quelquefois même une peur d'atteindre quelque chose en laquelle elle ne peut pas se reposer. C'est ça la crainte. La crainte mauvaise, la crainte qui arrête, la crainte qui rend timide et qui empêche les audaces. L'amitié doit augmenter dans l'intelligence de l'ami son désir de vérité. Puisque l'ami est une première vérité que j'atteins, mais c'est une vérité qui est limitée. Et mon désir de vérité est illimité. Et donc l'ami doit me montrer, doit m'indiquer où ce désir de vérité peut être atteint. On ne peut pas nier que l'ami, s'il est véritablement l'ami, suscite chez son ami un très grand désir de vérité et une soif de vérité qui fait qu'on demande à l'ami de nous aider à atteindre cette vérité. Et on est très vite pour l'ami un tremplin qui lui permet d'aller plus loin, d'atteindre plus sa vérité. Et il y a toujours cela dans l'amour d'amitié. Quand cet amour d'amitié ne se ferme pas sur lui-même par le désir de possession, on veut posséder l'ami. Il faut bien distinguer la différence de l'amour et de la possession. Au fond, l'amour n'est pas un avoir. La possession est un avoir. L'amour, c'est l'être. Et on sait que l'ami, en tant qu'ami, je ne le possède pas. Je l'aime. Et je l'offre. Et je peux l'offrir à celui qui me le donne, à celui que je n'atteins que d'une façon partielle, mais que j'atteins grâce à son amitié. Et grâce à l'amitié que j'ai de mon ami, je suis plus proche de celui qui est mon véritable bien total. Je le suis, mais je ne le sais pas toujours. Parce que l'amour va plus loin que l'intelligence. Cette phrase que je vous ai déjà citée plus d'une fois de saint Thomas, qu'il vaut mieux aimer que de connaître l'ami. La connaissance va moins loin que l'amour. L'amour dépasse la connaissance. Quand l'intelligence ne dépasse pas l'amour, l'intelligence tue l'amour. Et on assiste à ce fait terrible que on veut toujours posséder. La possession vient de l'intelligence. Et au contraire, il faut comprendre que celui qu'on aime est plus grand que nous, et donc il vaut mieux l'aimer pour se dépasser et être plus proche de lui. Et c'est ce dépassant de l'amour qui me fait poser le problème: est-ce que il n'existe pas quelqu'un de premier à mon amour? L'ami est le lieu de préférence à poser la question: existe-t-il un être plus grand que mon ami? Existe-t-il un être premier qui n'est pas rival de mon ami? Celui qui serait de la même situation que lui serait un rival. Mais je me pose la question: est-ce que il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que mon ami? Et qui non seulement n'est pas rival de mon ami, mais au contraire, il est celui qui me donne cet ami et qui permet à cette amitié de se garder. Et je crois qu'il est très important, comme dans toute découverte, de se poser la vraie question. Ce n'est pas à l'égard d'un crapaud que vous posez « Existe-t-il un être plus parfait que le crapaud ?» Non. Mais quand vous posez la question par rapport à l'ami « Existe-t-il un être plus parfait que mon ami ?» Le seul être plus parfait que mon ami, qui est supportable, c'est Dieu. Tous les autres seraient des rivaux et risqueraient d'être ceux qui viennent diminuer. Tandis que s'il existe un être qui est premier, et qui est premier par rapport à mon ami et par rapport à moi-même, cet être premier n'est pas gênant. Il faut découvrir Dieu en tant qu'il n'est pas gênant. la plupart du temps, on ne veut pas découvrir Dieu parce que il est gênant. Donc, il faut au contraire découvrir l'être qui me libère de moi-même et qui me libère de toute jalousie, parce que l'aimer, c'est celui qui me permet d'être dans la vérité. Il y a, par rapport à l'amour d'amitié, cette découverte de l'être premier qui me semble la chose principale pour que l'amitié de l'ami soit vraie.